Cette émission vous est proposée avec la participation de Damien Giraudet, SB80, Cédric Gio, SamSam91, Maxime Coster, Vincent Malac, Mathieu Rouvin, Hugues Chocard, Olivier Derez et Pierre Rosière. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle qui vous résume l'actu tech, internet et gadgets. J'ai failli dire jeux vidéo, on se mélange à force. Je suis Patrick Béja et pour nous accompagner dans cette émission aujourd'hui où on va parler, on va un petit peu parler des événements à Paris évidemment sous l'angle un petit peu tech. On va parler de l'iPad Pro, on va parler du rachat de l'une des plus grandes sociétés de jeux vidéo sur mobile et puis on aura les news et rumeurs etc. ensuite. Et donc, pour nous accompagner dans tout ça, on a d'une part, comme toujours, Jeff Clavier, en direct de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ?
Ça va. Un peu en demi-teinte aujourd'hui à cause des événements dont on va parler. Et donc, mes pensées vont vers les familles des victimes et de ceux qui sont blessés. Mais la vie continue, comme on dit. Donc, excité d'être avec vous sur ce rendez-vous tech.
Et on a également avec nous Jérôme Kainborg qui nous rejoint une fois de plus. Merci de te joindre à nous, Jérôme.
Eh ben, écoute, merci de me recevoir et je me joins à ce qu'a dit Jeff avec peut-être aussi une pensée particulière en pensant à Jeff, à tous les Français ou ex-Français qui sont à travers le monde et qui vivent ça de loin aussi. C'est pas une chose facile quand il y a de ce genre d'événement dans une patrie qu'on connaît et qu'on n'est pas dedans. C'est pas un moment facile.
Bah justement, on va pas faire toute l'émission là-dessus, bien sûr, hein, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas en dire quelques mots. Donc, on enregistre cet épisode trois jours seulement après les attaques qui ont eu lieu à Paris vendredi 13 novembre. C'est un petit peu compliqué pour tout le monde, je crois. Je crois que aussi que la plupart des gens ont eu cette réaction que je pense assez saine, qui est de se dire justement il faut faire un effort pour que les choses continuent normalement. Moi, j'ai commencé à réenregistrer dès dimanche soir. On m'a proposé d'être sur This Week in Tech et j'ai accepté justement pour témoigner de comment ça s'était passé pour nous. C'était d'autant plus compliqué de mon côté que moi j'étais en Finlande au moment des événements, j'y étais pour le week-end pour raisons familiales et je suis revenu donc dimanche et donc j'ai suivi ça un petit peu de loin et puis en même temps c'était dur et puis c'était pas évident. Pour Jeff ça l'était encore plus et puis évidemment pour les Français et les Parisiens qui étaient sur place c'était encore plus difficile. Donc, sans nous étendre sur la question, on va pas parler politique ou pas trop en tout cas si c'est pas lié à la tech. J'imagine que beaucoup, enfin Jérôme et Jeff en tout cas et moi c'est le cas, on a suivi ça sur internet. Il y a eu des sites internet qui ont activé différents types, qui ont eu différents types de réactions. On a vu des sites comme Amazon mettre un drapeau français, on a vu Uber qui a bloqué l'augmentation des prix et puis mis des petits drapeaux sur ses voitures, c'était mignon mais un petit peu bon, je sais pas, c'était une bonne intention on va dire mais un petit peu ridicule. On a vu aussi les YouTube qui a essayé de fournir de l'information en ayant un news center, une sorte de news center sur la page d'accueil. Il y avait la possibilité d'accéder à des vidéos d'information qui étaient principalement issues de France 24, en fait qui liaient vers le site de France 24, enfin la page de France 24 en anglais. Il y a eu aussi le Facebook Safety Check qui a été activé. Et bon, avant de dire moi de quoi j'ai pensé, enfin ce que j'ai pensé de tout ça et du reste aussi. Peut-être Jérôme, qu'est-ce que toi comment tu as vécu tout ça?
Bien écoute, c'est vrai que c'est ce que je disais, les réseaux sociaux ont pris aujourd'hui une place tellement importante dans notre flux d'informations, voire primordial. Moi, mon premier réflexe pour moi a été d'allumer Periscope. Periscope pour voir ce qui se passait. On a eu de la chance, entre guillemets, c'est un journaliste qui a fait un Periscope en premier, avant même que les télés commencent à diffuser quoi que ce soit. Donc un journaliste qui a fait les choses plutôt bien et avec plutôt du tact, parce que ça peut être le danger aussi, hein. C'est que n'importe qui se met à périscoper n'importe quoi. Mais là, c'était plutôt bien fait. Ensuite, j'ai switché tout de suite sur Twitter, voir ce qui se passait. Et puis, voilà, j'ai même pas allumé une seule fois ni la télévision, ni des canaux officiels d'information. À part France 24, effectivement, que j'ai commencé à mettre au bout d'un moment sur mon iPad. Et puis, c'est là que j'ai reçu, effectivement, il y a plusieurs heures qui se sont passées, on a suivi les événements, etc. Et ma réaction par rapport à la demande d'information de Facebook, ça a été très bizarre au début, parce que c'est vrai que je m'attendais pas à ça.
Quand tu dis la demande d'information, tu veux dire leur safety check où ils disent est-ce que vous êtes en sécurité?
Voilà, on a eu un pop-up menu sur le navigateur disant est-ce que vous êtes en sécurité, avec un espèce de logo vert, tu vois, pas brandé Facebook. Au début, j'ai mis un certain temps. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Enfin, j'ai cru à un truc malveillant ou quoi que ce soit. J'ai hésité à répondre pendant quelques secondes. Je suis d'abord allé voir sur Facebook ce qui se passait et j'ai vu un petit peu ce qu'ils avaient construit. J'ai décidé de répondre, mais j'avais un sentiment ambigu au début. Est-ce que c'est à Facebook de faire ça? Finalement, j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Après réflexion, même si, et c'est ce que je disais ce matin dans mon émission, pour un vieux comme moi, il y a quand même quelque chose de bizarre de voir une société privée, transnationale, s'occuper de quelque chose qui avant était du ressort des États. D'alerter les populations et ce genre de choses, ça m'a, voilà, j'ai eu un sentiment un petit peu bizarre, mais finalement je me dis que c'est dans l'air du temps et c'est la norme des choses aujourd'hui, quoi.
Ouais, moi qui étais en Finlande, je t'avoue que c'est le truc que j'ai retenu de toute cette, de tous ces différents essais, ou tous ces différentes tentatives ou outils qu'on pouvait utiliser, c'est le truc de Facebook qui a été d'une utilité incomparable, quoi. Ça m'a énormément aidé parce que j'ai appelé quelques personnes, mais tu peux pas appeler tout le monde, tous les gens que tu connais. Et là, c'était vraiment, il y a peu de chances que quelqu'un que tu connaisses soit touché, mais quand même, tu vois, quand tu vois le petit truc s'allumer, machin a indiqué qu'il était en sécurité, t'as quand même un moment où tu pousses un soupir de soulagement, tu vois. Ouais, donc j'imagine que pour toi, Jeff, c'était un petit peu la même chose.
Oui, complètement. Donc j'ai appris les événements par un texte de mon épouse à 2h de l'après-midi, 2h30, 2h36 exactement, où elle me dit fusillade à Paris, 30 morts, des centaines d'otages, puisque à l'époque, enfin à ce moment-là, on avait très peu d'informations et c'était un peu le bazar. Donc j'ai fini mon meeting, après je me suis jeté sur mon ordinateur. À ce moment-là, Facebook avait déjà activé le Are You Safe machin, et donc j'ai commencé à voir que beaucoup de mes copains étaient en sécurité. Après, j'ai regardé un peu les infos américaines, Twitter, Facebook, où il y avait énormément de contributions personnelles. Bon, faut savoir que je ne suis pas beaucoup de monde sur Twitter, donc pour moi c'est vraiment l'information pure. Et après, en fait, je me suis très rapidement retrouvé sur France 24, où je pense qu'ils ont fait un excellent boulot de couverture par rapport à ce que j'ai pu voir avec CNN, Fox News, etc. Et puis après, bah, c'était les pings auprès des gens qui n'avaient pas encore répondu pour savoir où ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait, regarder sur Twitter quel était leur dernier post, sur Instagram. Donc en gros, essayer de grappiller au travers des réseaux sociaux quel était le dernier endroit où ils avaient pu être, et essayer de comprendre si par hasard ils étaient dans la situation de risque, quoi.
Il y a eu quelques petits incidents, on va dire, sur les réseaux sociaux aussi. Je sais qu'il y a eu quelques comptes qui ont été créés pour diffuser des informations de personnes qu'on recherchait au bout de quelques heures. Et il y a eu ensuite, genre le lendemain, sur ces comptes qui ont été créés par des adolescents qui étaient bien intentionnés, je pense, il y a eu des trucs un petit peu des fausses notes, genre... un tel a perdu la vie, un RT égale un soutien. C'est celui que j'ai vu qui était vraiment de mauvais goût. Mais je crois que ce sont des gens qui se rendaient pas bien compte, qui essayaient de bien faire. Et puis on découvre tous ensemble, on apprend comment utiliser ces trucs. Ouais, Jérôme.
Moi, j'ai passé vraiment une bonne partie de la nuit sur Internet. Il y a eu des débordements, beaucoup moins qu'en janvier, pendant les attentats Charlie. Je pense qu'on a appris de certaines erreurs. Évidemment, il y a eu des débordements, mais il y a eu des choses extrêmement positives qui sont nées et qui n'auraient pas pu naître sans les réseaux sociaux. Je pense notamment à l'opération Porte Ouverte.
Je crois que tu sillonnes un peu, Jérôme.
Je sillonne un peu, ouais. Je suis désolé. Pourtant, là, je peux pas faire mieux en connexion.
Non, je veux dire débrancher, rebrancher ton micro, peut-être. C'est un micro USB.
Ouais, je débranche, je rebranche.
D'accord. Moi, effectivement, j'ai eu aussi ce sentiment qu'on avait mieux géré les choses qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo, dans une bonne partie des cas. Je te laisse finir, Jérôme.
Oui, et je sillonne encore, ou ça va ?
Non, c'est bon.
Bon, il y a des choses positives qui sont nées très très vite. Porte Ouverte, ça a répondu à une nécessité impérieuse et immédiate de la situation. Dans les faits, ça n'a pas été une opération. Certains se sont réfugiés chez des Parisiens, mais en tout cas, il y a eu avec la géolocalisation, les hashtags Twitter, ça a permis une action civile spontanée, positive, rapide. Et ça, c'est quand même grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter. Et ça, c'est, on va dire, dans les choses bénéfiques par rapport à ce type d'événement, ce qu'un média traditionnel n'aurait pas pu organiser. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
C'est sûr, c'est sûr. Je vais dire ensuite peut-être deux mots sur les conséquences toujours tech que ça peut avoir, et tech et politique. Avant ça, je vais quand même mentionner le fait que moi, encore une fois, depuis la Finlande, sur le moment, donc c'était en soirée là-bas, j'ai regardé un petit peu tout ce qui s'est passé. J'ai évidemment été très atteint, comme tout le monde partout. Et je me suis dit, je vais arrêter de suivre tout ça. Je suivais quelques journaux sur le web, Twitter bien sûr, Facebook un petit peu. Et puis je me suis dit, je vais arrêter parce que là, ça sert à rien. C'est en cours et c'est juste se faire du c'est pas productif, quoi. Donc je vais arrêter. Je me suis couché et à ce moment-là, on pensait qu'il y avait une vingtaine de morts. Quand je me suis réveillé le lendemain, on était à un bilan beaucoup plus lourd, comme on le savait. Ça m'a fait un gros coup. Mais par contre, ce qui a été très positif, c'est le nombre de messages de mes amis, de mes auditeurs anglophones et partout dans le monde, de soutien, qui a été vraiment quelque chose de très positif, quoi. C'était une lueur un petit peu dans un moment assez noir, et c'était quelque chose qui a été vraiment précieux, le fait qu'ils aient pu apporter de cette manière leur soutien. Et tu sais, même je crois que c'est toi qui l'as posté en premier, Jérôme, la devise de Paris,
fluctuat nec mergitur,
qui veut dire
très exactement, ça veut dire battu par les flots mais ne sombre pas.
Et c'est ce genre de petites choses, ça peut paraître dérisoire, comme le fait de changer son profil, de mettre des couleurs sur son profil Facebook, etc. Évidemment que c'est dérisoire, mais c'est quand même, ça montre, c'est un moyen de montrer qu'on essaye de soutenir d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui ont exprimé le fait que c'était, il y avait eu un attentat à Beyrouth une semaine avant et que Facebook n'avait pas activé ses trucs pour ça. C'était la première fois qu'ils activaient leur check-in pour un attentat ou pour un problème humain, en fait. Avant ça, c'était pour des désastres naturels. Et c'est sûr que c'est tout à fait légitime. Donc, on peut espérer qu'ils l'activeront à l'avenir dans ces cas-là aussi. Mais c'était vraiment un outil utile à mon sens. Puis une autre chose, on a vu le hashtag Pray for Paris tourner. Et j'ai vu quelques réactions. On sait qu'on est une société très séculaire, très athée très laïque, oui, pardon. Mmh. Et il y a eu quelques réactions pour de gens qui disaient mais c'est pas la peine de prier, nous on n'a pas besoin de prière. Il y a eu un dessin de Johann Sfar qui a beaucoup tourné. Moi je crois que oui, effectivement, sur le principe pourquoi pas, mais il y a quand même, c'est la manière dont les gens expriment ce soutien, et c'est un petit peu les gens qui avaient cette réaction, je la comprends, mais en même temps j'avais un petit peu l'impression de, il y a un enfant qui vient vous donner une fleur parce que il voit que vous êtes triste et vous lui tapez dans la main en disant mais qu'est-ce que tu veux, je foute de ta fleur, voilà, c'est un peu
non, bon, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la culture anglo-saxonne sur toutes les États-Unis. Exactement. Et que moi c'est ce que j'ai répondu à quelqu'un, je lui dis quand on dit bon Dieu, ça veut pas dire qu'on est croyant. Enfin, il y a un moment, il y a des expressions populaires et pray for, Jeff nous le confirmera, pray for quand il y a un événement grave, c'est une expression comme ça, nous on dirait en France, religion, comme nous on dirait en France, toutes nos pensées vers vous ou quelque chose comme ça. C'est une formule consacrée, ouais.
Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas du tout pratiquant. Mais alors pas du tout, et pourtant j'ai utilisé le hashtag Pray for Paris parce qu'en gros c'est pas une prière, tu peux faire une prière sans pour autant référer à quelque chose qui soit trop loin dans les trucs où tu veux pas aller, quoi, dans les aspects religieux.
Ouais, et puis même à vrai dire, moi je dirais, c'est leur moyen d'exprimer le soutien. Si eux leur moyen c'est de faire une prière, je crois que dans ces moments-là, moi je prends tout, quoi. Et à vrai dire, justement à propos de tout prendre, j'avoue que sur le moment, même moi qui suis archi convaincu de l'inutilité des lois de surveillance et même de la dangerosité, j'ai eu un moment où je me suis dit. Vraiment, sur le moment où j'ai appris, je me suis dit pendant quelques minutes, bon ben, allons-y, je m'en fous, faisons tout. S'il y a un truc qui a une chance d'aider un tout petit peu, eh ben allons-y. Et il a fallu que moi, je réfléchisse et que je me raisonne un petit peu en me rappelant que ce genre de choses n'aide pas. Les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer le fait que la plupart des attaquants étaient connus des services de police, donc... et des services de renseignement, donc ça confirme un petit peu la thèse de ceux qui sont contre l'extension des pouvoirs de renseignement, selon laquelle il faut faire du travail de police et d'enquête, et on a déjà les noms de ces gens-là, donc les noms, on peut les surveiller à peu près, on peut connecter, donc l'idée d'étendre la surveillance à l'ensemble de la population n'est pas vraiment utile. C'est, en gros, je résume, mais c'est à peu près ça, et je dirais que au-delà de l'aspect purement technologique, je crois qu'il y a un vrai danger que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, pour vouloir faire quelque chose, je suis pas certain qu'il y ait une intention malicieuse ou mauvaise là-dedans, mais pour vouloir faire quelque chose parce qu'on se sent tous désemparés, il y a effectivement un danger que les lois votées, comme ça a été le cas après Charlie Hebdo, ne soient pas tout à fait, je dirais, raisonnables d'un point de vue technologique et du point de vue de ceux qui connaissent ces problèmes expriment. Et pour moi, c'est tout à fait le fruit du hasard, mais c'est la campagne de la Quadrature du Net a commencé il y a quelques semaines à peine, la campagne annuelle de dons. Et la Quadrature du Net est pour moi toujours la seule voix en France et même dans une certaine mesure une des seules voix en Europe qui exprime le point de vue des gens qui sont pour la vie privée et pour la protection de la vie privée et qui connaissent vraiment ces domaines. Et je le dis souvent, hein, je suis pas toujours d'accord avec eux, mais je pense qu'il est important que cette voix se fasse entendre. Et moi j'avais déjà la semaine dernière fait ma petite donation annuelle à la Quadrature du Net. Et sur Reddit, il y a Marcel Chafouin, qui est un patriote, qui avait proposé ce sujet aussi, la campagne de la Quadrature du Net. Je crois qu'encore plus aujourd'hui, après ces événements, cette voix est importante. Il est important qu'elle existe. Et donc, j'encouragerais les gens qui pensent comme certains d'entre nous, que il est important d'avoir ces deux points de vue dans les débats sur les mesures qu'il faut prendre. Je les encouragerais, peut-être s'ils ne savent pas comment peser dans la balance, eh bien tout simplement à participer à la campagne de don de la Quadrature du Net, parce qu'il faut que ces gens-là puissent exprimer leur avis auprès des hommes politiques et de la sphère politique en France.
Tout à fait. Mais je pense que on retombe toujours un petit peu dans la même discussion. Hein.
Oui, c'est pas la peine de la refaire encore.
Liberté, sécurité, comment concilier les deux, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut prendre le temps de ne pas prendre des décisions trop hâtives dans la peur. On les regrette. Je pense qu'il faut apprendre. Et les États-Unis, je pense, peuvent nous enseigner des choses aujourd'hui par rapport le Patriot Act qui a été décidé un petit peu rapidement dans l'émotion des attentats de 2001 et que essayant de pas faire ces erreurs. Et je rajouterais juste ça, la protection de la vie privée, c'est un des piliers fondamentaux de la liberté. Les personnes qui ont attaqué le monde libre, parce qu'ils ont attaqué Paris, mais ils ont attaqué le monde libre, c'est cette liberté qu'ils craignent par-dessus tout, parce qu'ils savent que cette liberté, c'est leur fin, en fait. Ouais. Et que si on commence à se priver de cette liberté-là, on rentre dans un processus.
Bah, je dirais même, c'est ce qu'on avait dit en janvier, je crois qu'il est bon de le rappeler, ils peuvent pas nous battre militairement. C'est certain qu'ils peuvent nous infliger des dégâts douloureux, comme ça a été le cas vendredi. Mais ils peuvent pas rentrer en France et nous tuer tous militairement. C'est dans ce sens-là, ils peuvent pas nous battre. La seule arme qu'ils ont, c'est cette peur. C'est cette terreur qu'ils peuvent insuffler dans la population et dans notre raisonnement. Et le seul danger qu'il y a vraiment, au-delà des vies qui ont été perdues, mais le danger pour nos sociétés, c'est le fait de se mettre à réfléchir et à prendre des décisions qui ne sont plus motivées par la raison, mais qui sont motivées par la peur. C'est la base du terrorisme, c'est l'arme, c'est d'infliger la peur aux gens. Et je pense qu'il est très important justement de garder la tête froide et de ne pas prendre des décisions motivées par la peur, mais encore une fois motivées par la raison, qui peuvent être des décisions graves, bien sûr, qui peuvent être des décisions sérieuses et extrêmes même parfois, mais il faut qu'elles soient motivées par la raison et pas par la peur. Donc bon.
Ouais, mais un petit bémol, puisque de toute façon ça a toujours été ma position, je pense que le gouvernement décidant de prendre une décision grave qui est de mettre en place l'état d'urgence en France de manière à se donner les moyens de poursuivre les enquêtes très très rapidement comme ils le font, je vois pas ça comme une réaction de peur, c'était quelque chose qui était complètement justifié. Et donc je suis d'accord qu'il faut pas tomber dans l'excès, mais se donner les moyens d'aller chercher les terroristes qui utilisent tous les moyens techniques qui sont à leur disposition avec les mesures adéquates, je pense que c'est raisonnable aussi.
C'est sûr. Non, mais en l'occurrence, je pense pas qu'on parle de ce qui s'est passé immédiatement les jours d'après. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est ce qui se passe dans les semaines et dans les mois qui suivent, comme la loi sur le renseignement dont on a discuté vraiment ad nauseum des travers selon nous. Et à vrai dire, encore une fois, tant si ce débat a lieu et que c'est un débat raisonnable, moi ça me dérange pas. Si les décisions sont prises, moi je suis pas d'accord avec les décisions qui ont été prises, mais si le débat est raisonnable, très bien. La seule chose que je veux pas, c'est que ces décisions qui vont être prises dans les semaines et les mois à venir soit motivé par, je l'ai déjà dit, par la peur. Là, je crois qu'on parle pas de l'état d'urgence, enfin, en tout cas.
Oui, et puis qu'on soit bien d'accord sur quelque chose, et là, je rejoins complètement Jeff, il n'est pas question de ne rien faire non plus, et de changer. Il faut qu'on réagisse à cette situation. C'est vrai que Charlie aurait dû peut-être plus nous réveiller, mais quelque part dans notre fort intérieur, on s'est dit, ça touche des journalistes qui s'en sont pris. Enfin, ça nous. Là, ils nous attaquent nous tous, encore plus directement. Donc, on ne peut pas non plus se dire, tout va bien et dans 3 jours, ça sera oublié et la vie revient comme avant. La vie ne va pas revenir comme avant. Il faut qu'on décide certaines choses. Ouais. Et je pense notamment au niveau géopolitique, mais ça
oui, ça c'est
pas
un,
ouais. Voilà.
C'est un autre débat, c'est un autre débat. Moi, ce qui me préoccupe vraiment, c'est cette question de cet équilibre entre vie privée et sécurité, qui est exactement ce dont tu parlais, Jérôme, qui est l'équivalent du Patriot Act aux États-Unis et les dérives qu'on a connues après le 11 septembre, qui étaient compréhensibles, mais apprenons de ces dérives. Enfin bon, il y a par exemple des rumeurs sur le fait qu'ils aient utilisé le réseau de la PlayStation 4 pour communiquer, parce que ce réseau n'était pas surveillé. Et on se rend compte qu'effectivement, ils trouvent, bon, sans repartir dans toute la question, mais ils trouvent toujours des moyens de communiquer de manière qui n'est pas surveillée. Donc le fait de surveiller tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire ? On va surveiller tous les réseaux du monde, on va emmagasiner toutes les informations du monde.
Il faut équiper toute la police française de PS4. Ah non, ça c'est peut-être pas une bonne idée.
Ouais, mais quand tu vois la toute petite taille des équipes de cybersécurité de la police française par rapport aux enjeux représentés, c'est là où clairement il n'y a pas assez qui est fait.
Oui. Je connais pas leur taille, mais c'est sûr que si elle est pas appropriée, oui, là il y a des choses à faire, c'est certain. Enfin bon, on va pas refaire tout ce débat-là. Je pense qu'on l'a depuis un an. On connaît les positions des uns et des autres. Encore une fois, moi la seule chose qui m'importe, c'est que quand on prend ces décisions, on les prend pas à chaud, on les prend pas parce qu'on a peur, mais on les prend parce qu'on y a réfléchi. Bon, passons à un sujet beaucoup plus léger. On a quand même l'iPad Pro qui est sorti cette semaine également. On a différents avis sur la bestiole. Certains disent qu'il peut effectivement remplacer un desktop, un ordinateur classique pour la plupart des usages ou pour une partie des usages. Walt Mossberg, grand amateur d'Apple devant l'éternel, a dit, lui, que finalement, c'était pas vraiment un remplacement d'ordinateur portable. Il y a eu plusieurs débats sur la puissance du processeur de l'iPad Pro, certains disant qu'il était vraiment quasiment aussi puissant dans certains tests, les tests monocore, ou même plus puissant que certains ordinateurs relativement modeste comme le nouveau MacBook pour comparer à des produits Apple. D'autres qui disent non, en fait, c'est pas aussi puissant que ça. Bref, tout ça ne répond pas à la question. Qu'en pense Jérôme Kainborg, puisque toi, tu l'as depuis quelques jours?
Moi, je l'ai depuis vendredi. J'ai pas encore eu vraiment le temps de trop trifouiller dedans. Mais par rapport à la question, est-ce que ça remplace un portable? Je dis que c'est pas la bonne question, en fait. La bonne question, c'est est-ce que tu as besoin d'un portable? En fait, c'est ça. Et c'est, en tout cas, c'est la stratégie d'Apple, qu'on soit d'accord ou pas. Et moi, les remarques que j'entends disant ça remplace pas un portable viennent de gens qui ont besoin d'un portable, qui sont des entre guillemets power users de l'informatique, qui ont besoin de leur gestion de fichiers, de pouvoir utiliser, d'ouvrir tout un tas de fenêtres en même temps, d'avoir un trackpad. Et Apple, leur dit, continuez à acheter nos ordinateurs. L'iPad Pro n'est pas fait pour, contrairement à la Microsoft Surface. L'iPad Pro, son positionnement tel que je le comprends d'un point de vue marketing, n'est pas fait pour remplacer un ordinateur, mais par contre pour être une alternative à un portable pour quelqu'un qui est un power user de l'iPad déjà au travail, comme moi. Moi, j'utilise énormément mon iPad comme outil de travail, presque plus que mon ordinateur. Mon ordinateur ne me servant plus qu'à faire du montage vidéo, mais tout mon administratif, tout mon commercial, toutes mes recos, maintenant, je les fais sur mon iPad. Parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus mobile, parce que je peux prendre des notes manuscrites dessus. Donc, j'ai pris l'habitude de travailler avec mon iPad. Et en ça, l'iPad Pro, c'est un rêve pour moi. C'est vraiment génial. Mais il ne remplace pas du tout mon ordinateur. Et je sais pas ce que je lui demande, en fait.
Voilà. Moi, j'ai effectivement, c'est une vision intéressante de la chose. Moi, la manière dont je l'avais vu en y réfléchissant, c'est ce que je disais dans This Week in Tech hier, c'est que pour nous, effectivement, évidemment qu'on va continuer à utiliser un ordinateur classique, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui Enfin, nous, on aime nos ordinateurs. Nous, on veut avoir un ordinateur. Mais il y a plein de gens qui détestent leur ordinateur. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette bestiole. Combien de fois, on en plaisante beaucoup, mais vous avez vos parents ou votre oncle ou votre...
Mais même au bureau, tu sais, nous, une notion qui est rassurante pour nous, c'est la notion de fichier et de dossier. Et quand on l'a pas, on est perdu. C'est ce qui nous est arrivé avec l'iPad et Apple. On a dit, où sont mes fichiers, où sont mes dossiers? On veut un Finder, on a l'habitude de ça. Mais pour tout un tas de gens et au bureau, et je l'ai vécu l'année dernière en 2014 puisque je travaillais dans une agence de pub, la plupart des gens se passeraient bien de cette notion de fichier, de dossier, d'enregistrement, et ce qu'ils adorent sur leur iPhone, c'est que ça enregistre tout, que les fichiers ne se perdent pas et qu'ils n'arrivent pas le lendemain dans le service informatique en disant ma poubelle a mangé mes fichiers pendant la nuit, quoi.
Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je sais que on avait l'impression, c'est ce que je disais déjà il y a un moment, on avait l'impression que tout le monde saurait servir d'un ordinateur au bout d'un moment. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que même un magnétoscope, les gens n'ont pas réussi à comprendre comment ça marchait. Donc si un magnétoscope, au bout de plusieurs années, les gens ne réussissent pas à le programmer, à comprendre comment ça marche, l'ordinateur, c'est peine perdue. Donc je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui ces machines, ils n'ont pas envie de ça, ça ne les intéresse pas. Et le jour où ils réussiront à trouver autre chose qui soit plus simple et plus limitée mécaniquement, qui fera qu'ils pourront s'en passer, eh ben peut-être que ils réussiront à s'en passer. Et je crois que c'est vers ces gens-là qu'essayent de se diriger Apple. Je pense qu'ils y sont pas encore complètement. L'iPad Pro a quand même certains petits soucis encore, mais je pense que c'est vraiment par là qu'ils sont en train de se diriger. Et c'est là la différence de philosophie fondamentale entre une machine comme l'iPad Pro et le Pixel C de Google et une machine comme la Surface, qui est beaucoup plus séduisante pour des gens qui veulent un ordinateur complet.
Exactement.
Jeff, toi, t'es intéressé par cette machine? Est-ce qu'autour de toi, il y a une excitation pour l'iPad Pro ou...
Non, pas vraiment. Je dirais que l'intérêt pour les iPads semble avoir un petit peu diminué avec les iPhone 6 Plus qui ont vraiment remplacé l'autonomie et le use case des tablettes. Et donc, j'ai pas vraiment beaucoup de mes copains qui ont dit « Oh, je me jette sur l'iPad Pro et moi, j'ai toujours mon vieil iPad de vieille génération qui fait son job. » Mais franchement, c'est pas le genre de truc qui m'excite plus que ça.
Ouais, ben, je crois que effectivement la cible de l'iPad Pro va être difficile à trouver. Je pense pas que ça sera un produit à gros volume.
Ça va pas être un gros carton commercial. Ça va juste ancrer certaines personnes sur l'iPad. Je pense quand même qu'il y a certains métiers créatifs et certains métiers commerciaux qui vont commencer peut-être à regarder l'iPad non plus comme un outil de consommation de contenu, mais comme un outil de productivité. Moi, je sais que j'ai fait la démo à certaines personnes de comment j'arrivais à faire une présentation sur PowerPoint ou Keynote beaucoup plus facilement avec mon iPad que sur un ordinateur et à la volée dans un moyen de transport et machin, et qui ont été convaincus. Et qui sont du coup qui ont ressorti leur iPad du placard qui leur servait uniquement à regarder des séries et à lire des news et qui en ont fait des vrais outils de productivité. Mais il y a une pédagogie à faire autour de ça et ça va prendre du temps pour Apple à faire comprendre que l'iPad n'est pas qu'un outil de consommation de contenu en fait.
Ouais. Je crois que le meilleur scénario en fait pour Apple, le meilleur scénario possible, c'est que maintenant ils ont une base avec cet iPad Pro. Et ça va pas être un carton immédiat, mais au fur et à mesure des années, ils vont réussir petit à petit, si tout se passe bien pour eux, à convaincre de plus en plus de gens de se dire, encore une fois, petit à petit, bon, ok, j'ai plus vraiment besoin de mon ordinateur, je le laisse de côté, ou à la limite, j'ai mon ordinateur à la maison, et le laptop, j'en ai plus besoin, je n'ai que mon ordinateur de bureau, pour quand j'ai besoin de ces trucs-là. Mais ça va être petit à petit, quelques personnes par quelques personnes, qui vont finir par se départir de ce besoin d'un vrai ordinateur en mobilité.
Mais, et je pense qu'il ne faut pas oublier les partenariats IBM, Apple et le monde de l'entreprise pour un service informatique. Alors certes, l'iPad Pro est extrêmement cher, beaucoup plus cher que... Mais pour un service informatique qui passe son temps, donc un temps homme, à réparer des ordinateurs qui sont presque trop souples pour certains utilisateurs et qui n'arrêtent pas de les mettre en panne ou de créer des problèmes, il y aura certainement une réflexion sur qui a vraiment besoin d'un ordinateur et qui peut se contenter d'une tablette avec toute la sécurisation du système qu'offre une tablette comme celle d'Apple.
Voilà. C'est pas faux. Bon, sujet suivant. Activision a dépensé une somme absolument monumentale pour acheter King, le développeur du jeu Candy Crush. Alors, on sait que Candy Crush est un gros succès sur mobile, et on a d'un côté donc ce développeur qui s'appelle King, et la somme d'argent dont je parlais, c'est 5,9 milliards, je dis pas millions, hein, milliards de dollars. Ce qui représente, la comparaison qu'on donne le plus souvent, c'est un Lucasfilm et demi. Disney a payé 4 milliards pour Lucasfilm, Activision Blizzard a payé 6 milliards pour Lucasfilm. C'est monumental, on le comprend bien. Alors, on sait que le jeu sur mobile représente quelque chose d'important. Moi, j'ai quelques pistes pour expliquer, peut-être, même si j'avoue que je la comprends pas très bien, une somme aussi importante. Jeff, est-ce que toi, tu saurais expliquer cette somme hallucinante, ou est-ce que vraiment ça a été surévalué, la valeur de King et de ces jeux-là?
Bah écoute, je pense qu'on verra un petit peu dans les mois qui viennent, une fois que l'acquisition est complétée, comment est-ce que les marchés publics vont réagir et mettre une valeur sur les deux sociétés combinées. Mais clairement, Activision, c'était essentiellement desktop et console. Et King leur amène une énorme position sur le jeu mobile. Donc c'est comme ça que tu vas justifier en fait une acquisition de cette importance. Après, en termes de valo, très objectivement, vu les revenus de King, bon, je veux dire, ils font quand même, je crois que c'est plus d'un milliard de dollars quand même. Le multiple ne peut être justifié à mon sens, et j'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en gros une compétition pour acheter King, et c'est en gros le plus gros bidder, celui qui a payé le plus, en gros qui l'a récupéré. Sinon, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient dû payer un tel multiple.
Moi, j'ai l'impression qu'il y avait, effectivement, tu l'as très bien dit, Jeff, je crois qu'ils avaient besoin, Activision Blizzard, d'être présents sur ce marché mobile, sur ce marché du jeu vidéo mobile, et ils l'étaient pas du tout. Alors, Activision Blizzard, c'est Activision Publishing d'une part, qui est Call of Duty, Skylanders, et de l'autre, Blizzard Entertainment, qui est World of Warcraft, Hearthstone sur mobile, et d'autres jeux. Mais sur les jeux du type de ceux que développe King, qui sont des jeux qui sont plus souvent joués en mode casual dans les transports en commun, ils n'étaient pas du tout présents. Donc, ils achètent leur position. Moi, je crois qu'ils avaient des sommes bloquées à l'étranger parce que Activision Blizzard est une société américaine, et ils avaient, entre parenthèses, j'ai travaillé pour Blizzard Entertainment pendant quelques années, full disclosure. Ça fait un an maintenant, peut-être que je vais commencer à pouvoir ne plus le rappeler à chaque fois, mais ils avaient de l'argent qui était à l'étranger, qui avait été fait en Europe, et c'est un moyen pour eux de dépenser cet argent sans avoir besoin de le ramener aux États-Unis, parce que s'ils le ramènent aux États-Unis, ils payent des taxes dessus, et des taxes très importantes. Sur les 3 milliards qu'ils ont dépensés, parce qu'il y a 3 milliards en dette et 3 milliards en cash, sur les 3 milliards, on a parlé de 1 milliard qu'ils auraient dû payer en taxes. Donc effectivement, ça aide à dépenser cet argent s'ils savent qu'ils en auraient perdu une bonne partie de l'autre côté. Il y a aussi le fait que King, contrairement à d'autres développeurs du secteur, n'est pas autant un one-hit wonder, c'est-à-dire que 30% de leurs revenus viennent de Candy Crush. 30%, c'est beaucoup, mais c'est pas autant que des sociétés comme Supercell ou Rovio, dont l'essentiel des revenus viennent d'un jeu. On parle de Clash of Clans pour Supercell, ou le très connu Angry Birds pour Rovio, et ils n'ont pas réussi à renouveler le succès. King a l'air d'avoir une formule un petit peu plus rodée. Et en plus, il y a le fait que dans les pays en voie de développement, c'est un auditeur du Daily Tech News Show qui nous a envoyé cette remarque quand on a traité le sujet. Il nous disait, vous voyez ça du point de vue des pays occidentaux, mais dans les pays en voie de développement, la machine de jeu pour énormément de gens, et ben c'est le mobile. Donc c'est pas uniquement pour des jeux un petit peu plus passe-temps, mais ça peut aussi être des jeux qui sont utilisés de manière très core, de très gamer, que les gens vont approcher le truc. Et enfin, l'Apple TV semble indiquer que, selon les premiers classements de d'app, les jeux ont une certaine popularité là-dedans. Bon, c'est plus récent, donc je suis pas certain que ça ait été un facteur dans la réflexion de d'Activision Blizzard. Mais tous ces trucs mis ensemble fait que peut-être c'est effectivement plus intéressant de payer 6 milliards qu'on ne le penserait au premier abord.
Puis, sans être... parce que je vois pas quand même la transaction être expliquée juste par une optimisation fiscale. Parce que bon, ça fait quand même...
Je mets toutes les raisons ensemble, tu vois.
Tout à fait. Mais bon, je veux dire, regardons juste la façon dont les marchés jugent King. Donc, ils payent, en gros, 6 fois l'EBITDA. Donc, l'EBITDA de King, c'est 725 millions de dollars.
C'est quoi l'EBITDA, tu peux
l'EBITDA, dire c'est les profits before tax, amortization, d'accord, etc. Donc, c'est une mesure de profit de la boîte. Donc, la boîte fait 2 milliards 10 de revenus et fait 725 millions de dollars de profit. Donc, belle boîte, d'accord. Et le marché price ça à peu près 5 milliards et demi. Donc, un multiple de 6,41. D'accord. Si on regarde Activision Blizzard, ils vont faire 5 milliards de revenus, donc un petit peu, en gros, King c'est 40% de ce chiffre. Ils font 1,6 milliard d'EBITDA et le marché les price à 26 milliards. D'accord. Donc c'est un multiple de 15. Ce qui veut dire que si tu prends juste la combinaison des deux et que tu fais une règle de 3, tu te rends compte que Activision achète un truc qui est pricé 6 fois et eux ils sont pricés 15 fois. Donc ça veut dire qu'ils bénéficient d'un énorme effet de levier sur les revenus de King. D'accord? Je suis pas un analyste financier, donc c'est extrêmement basique comme analyse, mais ça veut dire que de ce point de vue-là, si effectivement ils ne font que rajouter les income statements, enfin les bilans financiers, ça peut être une très très belle opération.
D'accord. Ouais, effectivement, ça c'est j'avais pas vu cet aspect évidemment, je suis pas un expert sur le sujet, mais c'est vrai que du coup Activision Blizzard pricé à tu disais 15 fois. Donc du coup, c'est pas si incohérent que ça de payer un truc pricé 6 fois les bénéfices.
Non, parce que in fine, quand tu regardes,
c'est une belle société, King.
C'est une très belle société, et effectivement, l'action King a largement augmenté après l'annonce du deal, ok. Mais de toute façon, c'est une boîte, comme tu le disais, c'est pas un one trick pony. Donc une boîte qui ne fait qu'un jeu, comme on l'a vu avec Rovio. Et je veux dire, on verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, dépenser 6 milliards aujourd'hui sur une boîte de jeux, chapeau. Hein,
C'est une grosse somme. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de synergies qui peuvent s'activer. Oui, vas-y Jérôme, t'as été très sage.
Non, mais c'était moi aussi, full disclosure, je ne suis plus actionnaire d'Activision Blizzard, donc je parle en moi j'ai revendu en septembre, je vais peut-être m'en mordre les doigts justement s'ils réussissent leur coup. J'avais pas grand-chose, mais voilà, je suis plus actionnaire de cette société. Je pense qu'il y a aussi le facteur prise de position. Ça devient une bataille de titans au niveau du jeu vidéo. Les revenus sont hallucinants par rapport, tu parlais de LucasArts. En entertainment, par rapport au cinéma et toute autre forme de divertissement, toute autre forme de divertissement, le jeu vidéo engrange, et notamment effectivement sur ce modèle freemium qui est un modèle assez révolutionnaire, hein, disons-le quand même, hein, et c'est le jeu vidéo qui a quand même innové dans ce sens-là. Comment faire de l'argent avec du gratuit quand il réfléchit avec un esprit plus ancien, tu te dis mais comment ils font ? Et en fait, c'est super intelligent. Et je pense que là-dessus, King, avec ses algorithmes de frustration et ce genre de choses, a une expérience que... Et Blizzard, avec ce qu'ils ont fait avec Hearthstone, a bien vu le potentiel d'un marché par rapport à des modèles payants qu'ils avaient avec World of Warcraft. Ils ont bien vu qu'on c'était fois 100 quoi, les revenus qu'ils pouvaient faire avec des modèles comme ça. Donc
je sais pas si c'est des aussi important que ça, mais oui, c'est
non,
sûr
mais
que
j'exagère un peu. C'est mon côté italien.
Mais non, mais il y a quand même quelque chose de tout à fait vrai dans ce que tu dis. C'est le jeu vidéo est devenu une force importante et on voit du côté d'Activision Blizzard qu'il y a une vraie intention de développement encore plus grande que le fait d'être un acteur majeur du jeu vidéo, parce qu'on a vu qu'ils ont développé une division de d'e-sport, on a vu qu'ils ont aussi une division de films et de séries télé maintenant qu'ils viennent de créer pour porter leurs séries, enfin leurs IP, leurs propriétés intellectuelles à l'écran, aux écrans, et là en plus sur le mobile, il y a une vraie dimension de croissance importante de la part de Bobby Kotick, le président, et on se souvient qu'ils se sont rachetés eux-mêmes de Vivendi il y a quelques années. Vivendi a gardé une petite participation et là ils en font le maximum pour grossir énormément. Et Vivendi d'ailleurs, on a vu que Bolloré, peut-être qu'il se mord les doigts de s'être désengagé d'Activision Blizzard parce qu'il est en train d'essayer de s'engager chez Ubisoft et Gameloft. Donc, peut-être qu'il essaye de faire un petit retour. Bon, si vous voulez plus d'informations, si les jeux vidéo vous intéressent, là, c'est un aspect vraiment mobile, industrie en général. Pour les jeux vidéo, vous savez qu'il y a le rendez-vous jeu qui est toujours disponible en alternance avec le rendez-vous tech une semaine sur deux. Le dernier épisode était particulièrement intéressant, j'ai trouvé. On a parlé de Blizzard, justement, avec la BlizzCon, et aussi de la question très, très difficile de la notation de jeux vidéo sur Internet. Donc, je vous encourage à aller écouter le rendez-vous jeu si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous ces sujets. Jeff, je crois qu'il y a une équipe de télévision qui t'attend.
Oui, j'ai une équipe d'M6 qui va rentrer dans le bureau dans pas longtemps. Donc, je pense que je dois avoir encore une ou deux minutes. Mais effectivement, je vais voir vous quitter parce qu'ils vont venir filmer un segment sur la vie à San Francisco et que vous verrez un petit moment, je crois, au mois de janvier, quelque chose comme ça.
D'accord.
Ou décembre-janvier. Décembre-janvier.
Bah, écoute, tu leur dis un bonjour de notre part, mets un t-shirt. Je savais pas, je t'aurais envoyé un modèle pour te faire un t-shirt ou une casquette rendez-vous tech, ou les deux, et des gants aussi.
Je te le dis tout de suite, deux fois les télés sont venus m'interviewer, ils ont flouté mes logos et ils ont pas cité ma chaîne YouTube. Donc laisse tomber. Ils aiment pas, ils nous aiment pas.
D'accord.
Si tu veux, je vais me trimballer avec ma veste Softech VC, donc c'est le branding que j'aurai pendant l'interview. Okay.
D'accord.
Sauf si le cash, comme le disait Jérôme.
Sauf si quoi, pardon?
Sauf s'ils cachent mon logo.
Le floute. Non, ça ils le feront pas. Mais ils aiment pas les nouveaux médias. Hein, j'ai constaté.
Bon, très bien. Bon bah écoute, bon courage pour ton interview, pour ce petit reportage. J'espère que ça se passera bien et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc en janvier. C'est cool. Juste, si t'as une minute, ça s'est fait comment en fait? Ils t'ont contacté parce qu'ils veulent savoir comment se passe la vie des Français qui sont partis dans la Silicon Valley. C'est ce genre de
voilà,
truc, j'imagine.
Voilà, c'est le sujet en fait. C'est pour je crois un magazine qui s'appelle 66 minutes. Et le brief pour cet épisode-là, c'est la vie à San Francisco pour des expatriés. Donc, ils ont choisi quatre Français ou ex-Français qui ont des profils complètement différents. Et en gros, ils m'ont contacté parce que je suis un des rares VC français dans la vallée, donc ils n'avaient pas beaucoup de choix. Mais ils voulaient en fait voir ce que c'est que le travail d'un venture capitaliste ou capital risqueur, et aussi ce qui se passe au niveau des startups dans la vallée. Donc, on va aller se promener dans différents endroits, voir une boîte qui s'appelle Front, qui a des fondateurs français. Donc, on ira faire ça demain, je crois. Et puis, ça leur permettra de faire un montage qui donne une perspective aux gens de l'innovation à San Francisco, la vie à San Francisco, etc., etc.
Bah, voilà. C'est cool. Super. Bah, écoute, tu nous diras quand ça sera diffusé. Tu nous tiendras au courant, bien sûr, qu'on rate pas ça.
Ce sera avec plaisir. Et donc, je vais vous laisser. Encore une fois, mes pensées, et je ne vais pas dire mes prières, mais mes pensées à tous les gens qui ont été impliqués dans les attaques de la semaine dernière. Bon courage. Et comme on dit, the show must go on.
Ouais. Merci beaucoup, Jeff. Merci d'avoir été là.
Merci, Jeff.
Et à la prochaine.
Salut, Patrick.
Bon, eh ben écoutez, on va continuer, on va faire la petite pause Patreon pour remercier les gens qui soutiennent l'émission. Vous le savez, l'émission fonctionne grâce à votre générosité, à la générosité de ceux qui ouvrent le portefeuille pour soutenir une émission dont ils estiment qu'elle vaut quelque chose. Et voici quelques-uns des gens qui ont choisi de le faire. Donc merci à Denis Lebros, Julien Munoz, Rémi Dufourcq Lagelouze, Guillaume Boucherie, Véronique, Christophe Bayeux, The Pégase, Le Coche, Guillaume Giraud et Christophe Razinski. Merci beaucoup à vous tous. Un petit mot pour vous rappeler que ce mois-ci, donc en novembre, il y a 3 épisodes, puisque bon, de temps en temps, une fois ou deux fois par an, ça tombe comme ça dans le calendrier, il y a 3 épisodes au lieu de 2 dans le mois. Donc si vous ne voulez payer que pour 2 épisodes, n'oubliez pas d'aller sur votre compte Patreon et de limiter vos donations à 2 épisodes par mois. Généralement, les gens le font, hein, mais au cas où, c'est toujours bon de le rappeler. Si vous pouvez aussi mettre à jour la carte bleue ou votre moyen de paiement, s'il est plus valide, c'est aussi apprécié, parce qu'il y a certains qui oublient de le faire. Et puis, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez où aller. On va pas en faire des tonnes, vous connaissez bien le message, c'est patreon.com/rdvtech. Allez, les news et les rumeurs pour continuer l'émission. Il y a eu les résultats de plein de sociétés, comme d'habitude, hein, les résultats trimestriels. Moi, j'ai retenu que quelques chiffres très spécifiques. C'est ceux de Facebook qui, d'une part, a annoncé qu'ils étaient passés de 4 milliards de vidéos vues quotidiennement en avril à 8 milliards aujourd'hui. On se souvient que Facebook avait commencé à pousser les vidéos il y a peut-être un an de ça, et réussir à arriver à 8 milliards de vidéos vues par jour. Alors on peut dire il y a de l'autoplay machin, il n'empêche, c'est quand même hyper impressionnant. Jérôme, toi qui travailles beaucoup sur la vidéo, beaucoup sur YouTube, est-ce que tu commences à penser à faire quelque chose sur Facebook, ou est-ce que c'est pas encore dans ton radar ?
Non, pour deux raisons. D'abord, je suis moins impressionné que toi, parce que d'accord, faire 8 milliards de vues avec de l'autoplay, vu le trafic qu'il y a sur YouTube, sur Facebook, c'est pas si surprenant que ça. Je trouve ça déloyal, parce qu'il compte une vue au bout de 3 secondes, ce que même d'autres n'ont jamais osé faire en termes de comptage de vues. Donc là, franchement, autant il y a des choses que j'aime bien chez Facebook, là je trouve que c'est de la communication déloyale sur leur capacité à intéresser les gens au contenu. La deuxième chose, c'est que le type de contenu vidéo qu'on voit sur YouTube, je ne pense pas que les gens vont aller sur YouTube pour regarder une vidéo de plus de 2 minutes. C'est-à-dire que des vidéos qu'on regarde dans son flux, oui, mais si on veut la regarder plus sérieusement, moi ça m'est arrivé hein, de voir une vidéo sur Facebook qui était un embed de YouTube, bah j'ouvre YouTube quoi.
Tu sais, il travaille à la possibilité d'avoir une vidéo flottante quand c'est une vidéo native YouTube, oui, pour que tu puisses continuer à faire autre chose en même temps. Et n'oublie pas qu'il y a quelques années, c'est ce qu'on disait de YouTube quand même.
Non, mais je suis en train de parler. Tu me demandes si je m'y intéresse tout de suite.
Oui, c'est
non.
Peut-être un peu tôt.
Dans l'avenir, oui. Pour l'instant, je ne peux même pas mettre mes vidéos sur Facebook parce que elles sont trop grosses ou trop longues pour Facebook. D'accord. Il y a des limitations d'upload et l'outil quand même d'upload est extrêmement primitif par rapport à ce que c'est faire YouTube. Alors, je vais toujours relayer mes vidéos sur Facebook, puis c'est une plateforme pour faire connaître.
Mais moi, je pensais vraiment à utiliser ça comme plateforme native.
Pour l'instant, leurs outils de... Et le dernier point, et c'est peut-être le plus grave, tant que Facebook n'aura pas mis en place un système de contrôle des ayants droit des vidéos aussi efficaces que celui de YouTube, je refuse, parce que il y a quand même des cas de vol en ce moment de contenu qui sont patents et graves pour les producteurs de contenu. Des vidéos extrêmement populaires sur YouTube sont ripées par certaines personnes qu'ils mettent sans vergogne sur leur page Facebook. Ils emmagasinent des millions de vues et les revenus liés à ces millions de vues. Et Facebook ne réagit qu'après coup, très lentement et sans méthode automatisée de blocage des vidéos. Donc, si YouTube veut se mettre sérieusement à attirer les producteurs de contenu, il faut leur donner les outils pour contrôler qui fait quoi. Attention, hein,
c'est marrant, hein, je suis...
Ouais, tu...
Vas-y, finis.
T'es pas d'accord avec ça ?
Si, non, mais le truc, c'est que... C'est drôle parce que c'est effectivement un gros problème, mais les nouveaux producteurs de contenu qui sont sur YouTube sont des gens qui au départ se plaignaient de ce système qui existe sur YouTube effectivement qui s'appelle le Content ID qui analyse les vidéos et
mais
qui...
j'y viens justement. Ouais. Moi ça me dérange pas. Bon, personne ne volera mes vidéos, mais imaginons que je sois un gros YouTuber que tout le monde veut regarder. Ça me dérangerait pas, à la limite, qu'on vole mes vidéos pour les mettre sur du B2B et que les gens se les partagent gratuitement sans pub. À la limite, ça me dérange pas énormément. Pour moi, c'est ça Internet. Par contre, que quelqu'un se fasse de l'argent sur mon travail.
Non, bien sûr.
C'est ça qui me dérangeait.
Non, mais bien sûr, mais c'est. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Mais je trouve quand même ça marrant que aujourd'hui, les gens qui sont sur YouTube se rendent compte en fait de la problématique de la protection de leur travail et de leur propriété intellectuelle. Alors qu'au départ, justement, quand ils sont arrivés sur YouTube, ce Content ID était considéré plus comme un problème qui provoquait plus de problèmes qu'autre chose. Alors, et c'est marrant de voir que
vraiment,
ça se.
Ouais, ça part. Encore complètement shifté, parce que moi aussi, je me plains du Content ID sur YouTube. On a des strikes qui sont un peu violents. Moi, je parle plus de jeux vidéo à cause de ça.
Ouais,
et
en fait, laisse-moi juste expliquer en deux mots ce que c'est que le Content ID. C'est un système donc qui analyse les vidéos et qui détermine à qui elles appartiennent. Donc, si quelqu'un met une vidéo sur YouTube, un éditeur, je sais pas, de jeux vidéo, met une vidéo sur YouTube, il a donc la vidéo analysée et quand des extraits de cette vidéo sont utilisés dans une autre vidéo qui est uploadée sur YouTube, YouTube le sait et l'en avertit. Et ensuite, ce propriétaire original peut décider de ce qu'il va faire avec la vidéo qui a utilisé son contenu. Il peut dire, on partage les revenus, ou alors tous les revenus viennent à moi, ou alors votre vidéo est interdite, etc., etc. Et évidemment, c'est un gros problème parce qu'il y a des gens qui abusent de ce système. YouTube ne veut pas mettre les mains là-dedans parce qu'à partir du moment où ils prennent des décisions eux-mêmes, ça devient très problématique parce qu'ils deviennent partie prenante et donc ils sont impliqués légalement. Et du coup, les ayants droit arrivent parfois à empêcher une utilisation légale de fair use ou de droit de citation pour des vidéos qui seraient tout à fait légitimes d'utiliser pour parler d'un produit ou pour montrer un trailer, ce genre de choses.
Tout à fait. Le problème de Facebook est finalement beaucoup plus vaste au-delà de l'idée de l'histoire des revenus, c'est qu'il y a zéro information. C'est-à-dire que si on te vole ta vidéo...
Ils sont en train de construire ce truc, mais ouais.
Oui, mais justement, d'annoncer qu'ils font 8 millions de vues... Enfin, 8 milliards de vues tous les jours sans avoir construit ce système... Bon, je... Pour donner mon sentiment, c'est que je pensais que Facebook était au-dessus de ce genre de manœuvres qui sont des manœuvres, on va dire, de challenger. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Pour moi, Facebook, ça m'a déçu. Voilà, Facebook m'a déçu.
Oh là, mon pauvre. Oh là là, mais tu es tombé de tellement haut. Facebook t'a déçu.
Ouais.
Alors
Facebook
que tu avais eu telle confiance.
Je l'ai. Non, mais je. Voilà, pour moi, ouais, c'est une société maintenant qui est solide, qui a prouvé qu'elle avait une vraie utilité. Et je trouve ça un peu mesquin de faire ça.
Voilà. Bah écoute, tu sais, peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils réussissent à rester dominants dans tous ces domaines depuis tellement d'années, parce qu'ils restent une société qui ne se repose pas sur ses acquis et qu'ils vont chasser à chaque fois les nouveaux modes d'utilisation des utilisateurs, et à chaque fois ils ont réussi à les intégrer ou alors à racheter simplement des trucs qui marchaient parce qu'ils ne se considèrent jamais comme dominants, alors qu'ils le sont bien sûr très largement. Et puis aussi, on se rend compte que aujourd'hui aux États-Unis, ils génère pour chaque utilisateur américain à peu près, enfin un peu plus de $3 par mois par utilisateur, ce qui est énorme.
Ils ont réussi à construire un business en or. Mais justement, ils auraient pu faire un truc. Aujourd'hui, le problème des producteurs de contenu, je parle pas des gros YouTubeurs, on va pas retomber dans le débat, mais il y a un problème de revenus par rapport au contenu. Il y avait quelque chose à faire par rapport à YouTube,
non, mais
une vraie
concurrence. Je crois qu'ils vont y arriver. L'urgence pour eux était d'amener des vidéos sur leur système et d'amener des gens qui regardent des vidéos sur leur système. Et évidemment, on le sait, la raison pour laquelle ils se sont précipités, c'est que les revenus publicitaires sont en train de et ont chuté sur les bannières et se sont déportés en partie sur la vidéo. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher la vidéo. Bon, la France ne veut pas rester en reste face à l'extension de l'économie numérique et Emmanuel Macron veut nous proposer sa comment il l'appelle Noé, c'est je me souviens plus de quel acronyme l'acronyme pourquoi
je sais plus non plus ouais.
Ah mon Dieu, nouvelles opportunités économiques ça s'appelle. Oh là là. Je trouve ça un petit peu bizarre d'appeler ça Noé parce que moi ça m'évoque quand même oui, il y a un sauvetage mais ça m'évoque quand même une catastrophe assez
je trouve alors là c'est une erreur de com totale. C'est après moi le déluge comme on dit hein. parce que c'est ça voilà, alors, après, il fallait un truc qui claque. Mais...
Ouais, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça représente? C'est une idée selon laquelle il veut implémenter tout un tas de changements qui faciliteraient l'entrée et la transition de l'économie française dans le numérique. On n'a pas beaucoup de détails. Il y a un rapport intéressant de Nicolas Collin pour Terra Nova qui dit que en fait, le gros problème de la France, c'est qu'on est prisonnier. Je le cite, la France est prisonnière de son excellence dans la précédente économie. C'est intéressant comme idée parce que on a tendance à se dire ah la France machin, on est en retard, bidule. Mais en fait, selon lui, le problème c'est que dans l'économie non numérique, on était tellement bon qu'on a ce problème de l'innovateur, the innovator's dilemma, qui est que quand on est bon, on veut pas bouffer notre business model et donc on est plus lent à innover. Donc moi j'ai trouvé cette analyse intéressante et il est bon aussi de s'en rendre compte. Espérons que on réussira à opérer un petit peu plus efficacement cette transition parce qu'on sait qu'il y a une vraie appétence pour l'économie numérique et pour la chose technologique en France. On le constate hein, tous les jours et dans de nombreux domaines et ça se concrétise malheureusement pas tellement. Espérons qu'on s'en donnera les moyens un petit peu plus.
Ouais, espérons qu'il n'est pas trop tard.
Je crois pas qu'il soit trop tard, moi, mais...
Comme tu dis, on a des vraies opportunités en France. Hein. Moi, le premier, je reconnais qu'en France, il y a des vraies facilités à monter une entreprise, contrairement à ce qu'on croit par rapport à d'autres pays. Il y a des choses bien. Le problème, c'est qu'on nous change un peu les règles du jeu tout le temps. Qu'il y a une... Moi, j'ai envie de dire, c'est presque l'ambiance qu'il faudrait changer, quoi. Y a une ambiance un peu parfois défaitiste du public et qui se rend pas compte qu'on réussit des trucs et que tu vois, on se sent pas parfois soutenu comme start-up française.
Moi, je me sens assez soutenu, y compris par les auditeurs. SAS, tu vois, une société jeune, dynamique et innovante qui réussit à le rêve incroyable de faire payer des gens pour votre travail sur Internet. C'est fou.
Ouais, hein. Non, mais voilà, non, mais c'est l'exemple type. T'as pas eu besoin d'un Noé pour faire ça. T'as pas besoin d'une loi spéciale. À la limite, qu'on te facilite la création d'entreprise, fasse pas trop chier avec les impôts trop vite, qu'on te fasse pas trop chier d'un coup avec les impôts trop plus tard. Parce que pour moi, c'est le plus gros problème en France, c'est que la pente est très douce au début, et puis après, t'as une marche qui fait 3 km de haut. Bah, et qui a un mur, quoi.
C'est les fameux 3 ans, où c'est quoi, 70% des entreprises qui ferment au bout de 3 ans.
Qui ferment au bout de 3 ans. On a un tissu de création d'entreprises qui est extrêmement dynamique, mais moi, je préférerais qu'on nous fasse payer des impôts tout de suite. Comme ça, on pourrait faire des business models réalistes et que la pente soit plus douce pour les
entreprises. Moi, je suis prévoyant. Je préfère qu'on ne me fasse pas payer d'impôts trop vite et après, je les paierai avec joie. Enfin, j'espère.
Ouais, mais bon, t'auras jamais mis assez de côté. Mais bref.
On verra. Moi, je suis fourmi, hein, tu me connais.
Ouais, mais là, c'est termite qu'il faut être.
Ouais. Bon, il y a la loi numérique qui a été modifiée après le grand débat public. Il y a eu plusieurs domaines dans lesquels la loi a été modifiée. Il y a eu notamment des choses qui étaient relatives aux données publiques, à la reconnaissance de l'e-sport. Il y a un truc qui me fait plaisir, puisque je suis particulièrement adepte de jeux vidéo. Il y avait un problème de e-sport assimilé a du jeu d'argent, ça a été modifié. Bref, il y a eu des vrais changements sur cette loi numérique. Not Mika nous a fait remarquer sur Reddit, avec son joli hashtag Patriot, que le gouvernement, par contre, refuse visiblement de donner la priorité aux logiciels libres. Le texte a été un petit peu baladé pour dire qu'il y aurait des efforts accrus, mais que la volonté qui avait été décrite dans les débats de donner la priorité aux logiciels libres n'allait finalement pas être suivie. Et notre Mika éternel conspirationniste anti-Microsoft, il voit la main noire de la firme de Redmond. Je plaisante, hein, bien sûr, mais bon, peut-être effectivement que les gens de Microsoft ont décroché leur téléphone en disant « mais vous vous rendez pas compte, vous croyez que ça coûte pas cher, mais en fait, il y a des formations à faire, des machins, ça va vous revenir très cher », c'est leur argument éternel. Il y a aussi Pagey, qui est lui aussi patriote, qui nous dit sur Reddit, qui nous a lié un article selon lequel Axel Lemaire était favorable au vote par Internet sous motivation de modernité. Et l'article nous explique pourquoi c'est une erreur de vouloir se diriger vers le vote par Internet. Et l'explication est assez attendue, en fait. C'est le fait que le vote par Internet est beaucoup moins facile à vérifier que le vote classique avec du papier. Et moi, je suis assez d'accord. Pour autant que je sois grand adepte de la tech, et bon, on n'a pas besoin de le répéter, vous le savez, je crois qu'il y a certains domaines, et le vote en est un, où il faut rester à de la technologie ancienne, surtout en France où le vote fonctionne plutôt pas mal. On n'est pas dans des pays où il est très difficile de se déplacer pour voter, où les gens peuvent réussir dans la plupart du temps. Voilà. Il y a certains pays où je comprends, c'est très difficile, on n'a pas de réseau, d'infrastructures suffisantes, etc. En l'occurrence, en France, il y a une sorte de contrôle qui est important dans le vote à l'ancienne, avec un bout de papier qu'on met dans une urne, quoi. Donc voilà, à méditer aussi.
Ouais, faut voir. Je comprends ce que tu veux dire, mais imaginons qu'on arrive à sécuriser le système.
Ah oui, mais ça, on sait bien qu'il n'y a pas de système suffisamment sécurisé, et surtout...
Oui, mais on sait aussi que les urnes papier, c'est pas non plus 100% safe.
Eh ben, imagine ce que ça serait avec des ordinateurs. Moi, je ferais encore moins confiance. Évidemment qu'il y a des magouilles, mais imagine les magouilles encore plus importantes avec la possibilité de faire du hacking. Moi, je leur ferai pas confiance du tout, du tout.
Ouais, vraiment. Ouais, non, c'est un problème complexe, je suis d'accord.
Microsoft a ouvert des centres de serveurs en Allemagne pour protéger les... entre parenthèses, ils sont contrôlés par une autre société, et c'est pour protéger les utilisateurs européens de la surveillance du gouvernement américain. Alors, ça surveille pas de la surveillance du gouvernement européen, et il est possible que ça ne surveille pas, ça ne protège pas non plus vraiment de la surveillance du gouvernement américain, mais au moins le gouvernement américain ne peut pas dire ben ces données sont sur le sol américain et donc vous devez nous les livrer. Ouais. C'est un exemple de capitalisme qui marche, parce que Microsoft se rend bien compte que s'il n'offre pas une solution locale qui soit un petit peu protégée au niveau de la vie privée, eh ben leurs clients risquent de se diriger vers d'autres fournisseurs de services. Donc voilà, ils ont commencé avec l'Allemagne, c'est plutôt une bonne chose.
Tout à fait.
Et ils ont aussi fait un partenariat avec Red Hat, qui est un fournisseur de solutions Linux. Le mot m'échappe. De solutions Linux, pour offrir du Linux sur leur Azure Cloud. Et là, enfin, il y a des gens qui disent bah ouais, Linux chez Microsoft, c'est pas si étonnant que ça. Et les gens qui ont sont un petit peu plus âgés, ou qui sont un petit peu des barbus comme moi, ils se disent mais Microsoft qui offre Linux sur Azure, ça, alors c'était déjà le cas, mais là ils ont carrément un partenariat avec Red Hat, mais c'était de la science-fiction. On se souvient des combats.
On vit dans un monde où Apple a signé avec IBM, hein, Patrick,
mais oui, non, mais c'est ça. Mais c'est c'est une révélation, un twist de film invraisemblable, quoi. C'est...
On est à 3 ans du premier iPhone qui embarquera Android, hein.
Là, peut-être pas.
Non, je pense pas.
certains d'entre vous ne connaissent sans doute pas WordPress, mais on a aujourd'hui des chiffres selon lesquels WordPress est un CMS, un logiciel de gestion de contenu pour les sites web. En fait, c'est un logiciel de création de sites web, une plateforme de sites web qui représente aujourd'hui 25% de tous les sites du monde et ça monte jusqu'à presque 60% des CMS connus. Alors, quand on dit les CMS connus, ça veut dire que ça écarte les solutions propriétaires de certains sites qui ont leur propre solution. Mais quoi qu'il arrive, c'est un chiffre que je voulais mentionner parce que c'est une propension énorme pour une solution qui est open source, qui est le meilleur en fait du développement libre et du développement qui va dans les principes d'Internet. C'est du logiciel libre et il y a une partie qui est financièrement motivé, c'est le site WordPress.com qui vous propose d'héberger votre propre site chez eux, et il y a aussi la solution gratuite qui est WordPress.org que vous pouvez télécharger et vous l'installez sur votre serveur. Et moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce qu'énormément de gens utilisent, et c'est une réussite incroyable qui, moi, me fait vraiment plaisir parce que j'utilise WordPress pour les premiers sites. J'utilisais déjà WordPress à l'époque. Les gens qui se souviennent de Azeroth.fr, c'était déjà sous WordPress, et les sites fonctionnent toujours avec les mêmes thèmes, les mêmes skins, différents types de sites fonctionnent toujours avec WordPress, toujours mis à jour, encore aujourd'hui, et ça fonctionne toujours aussi bien. Et quel chemin parcouru au départ. WordPress, l'interface était vraiment ignoble. Maintenant, ça commence à aller vraiment, vraiment beaucoup mieux. Il y a plein de sites énormes qui utilisent WordPress. C'est un succès que je pense qui vaut un petit coup de chapeau, quoi. Vraiment, bravo WordPress, c'est une super réussite, et je l'utilise depuis longtemps, j'ai presque une certaine fierté personnelle à l'avoir annoncé ce genre de chiffres, quoi.
Ben, si on extrapole un peu, je pense que des entreprises comme ça sont en train de faire un chemin équivalent à la normalisation des méthodes d'impression à l'époque de Gutenberg. Voilà, ils ont rendu démocratique le fait de pouvoir être un site, d'être un média. Et en ça, on verra comment l'histoire le retient, mais c'est probablement des choses importantes.
Mais c'est tout à fait, hein, c'est vraiment, cette comparaison est importante, et je pense que c'est une valeur qui est chère aux gens qui ont développé WordPress et qui l'ont développé pour cette raison. C'était l'idée que chacun peut prendre en main l'édition de son propre site. C'est hyper important parce qu'on s'en souvient peut-être pas exactement comme ça. Certains d'entre vous, chers auditeurs, ne s'en souviennent pas comme ça. Mais l'alternative, c'est d'avoir un Skyblog ou un Blogger ou un Blogspot ou ce genre de truc qui, au-delà de la qualité inhérente à ces plateformes à la base, pose aussi le problème du fait que on héberge notre contenu chez quelqu'un. Et du coup, on est complètement tenu au bon vouloir et aux règles de ce quelqu'un, de cette société. Avec WordPress, on peut soi-même choisir d'éditer notre contenu comme on le veut, librement, et selon nos règles à nous. C'est hyper important. J'aimerais qu'il y ait la possibilité de faire ça aussi pour de la vidéo. Malheureusement, aujourd'hui, la seule solution financièrement viable, c'est de le faire sur YouTube ou ce genre de plateforme, pour tout un tas de raisons dans lesquelles qu'on pourrait développer. Mais l'une des raisons est sans doute le fait que au moment des choix de type de connexion autorisée pour les utilisateurs finaux, pour les consommateurs que nous sommes tous, eh bien l'ADSL a été privilégié, et l'ADSL permet un débit asymétrique, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus, on en parlait dans l'épisode précédent, mais on consomme beaucoup plus qu'on ne fournit. Et ça a eu des conséquences importantes pour beaucoup de choses, et notamment pour la vidéo. Ça veut dire qu'on ne peut pas héberger nous-mêmes nos vidéos.
Tout à fait.
Par contre, pour le texte et pour l'audio, moi, je suis entièrement hébergé moi-même. C'est grâce à des solutions de fournisseurs d'accès raisonnables et de trucs comme WordPress qui vous permettent de reprendre la main sur ce que vous publiez. C'est hyper important, et t'as bien fait de parler de l'imprimerie parce que ça m'a fait penser
mais
à ça.
Bon, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, mais ça vaut le coup de le redire. Si on fait tout ça, si tu fais du podcast, si on avait monté No Watch à une époque, si moi j'ai monté Now low-tech, c'est une conviction profonde que on n'a rien contre les médias, mais que les médias appartiennent à trop peu de monde dans le monde et que des modes d'expression individuels sont importants pour la poursuite de notre histoire avec un grand H, et que cette liberté, et je suis d'accord avec toi pour YouTube, mais reste quand même que c'est quand même formidable pour quelqu'un comme moi de pouvoir faire sa mini télé. J'en ai rêvé moi quand j'ai vu Wayne's World quand j'étais petit. Enfin quand j'étais pas si petit que ça, Wayne's World, mais bon bref.
Parce que t'es vieux, mais c'est pas
voilà.
Grave.
Voilà, cette liberté d'expression et de pouvoir être en son propre média et de pouvoir parler directement avec son propre public, c'est une liberté fantastique. C'est une époque fantastique.
C'est magique. Asus a confirmé qu'ils étaient en train de développer et qu'ils amèneraient l'année prochaine des lunettes à réalité augmentée, un petit peu comparable aux HoloLens de Microsoft. On ne sait pas si c'est en partenariat avec eux ou quoi, mais les leurs sortiraient l'année prochaine. Donc on verra ce que ça donne. C'est intéressant de voir qu'il y a un autre acteur dans ce domaine, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs dans la réalité virtuelle, mais jusqu'à maintenant il n'y avait qu'un seul gros acteur dans la réalité augmentée, c'était Microsoft. Visiblement il y aura Asus aussi. YouTube a sorti son application de musique indépendante qui s'appelle YouTube Music sur iOS et Android, et c'est disponible uniquement aux États-Unis, mais les gens qui sont abonnés à YouTube Red en fait sont abonnés à YouTube Red et à YouTube Music. Ça donne les deux
et,
en fait.
Et à Google Play Music aussi.
Voilà, c'est ça. En fait, ça donne les trois, tout à fait. Donc, ça donne accès à l'équivalent de Spotify. Ça donne l'accès à YouTube Music, qui est une application indépendante pour la musique sur YouTube, et à YouTube Red, qui est la service d'abonnement de YouTube en général. Ils ont fini par opter pour une seule solution pour tout, qui vous donne accès à tout. Il y avait des débats pendant un moment, enfin des rumeurs selon lesquelles il y aurait deux systèmes d'abonnement différents. Finalement, ils ont fait le très bon choix de n'en avoir qu'un seul et qui donne accès à tout. Je pense que c'était une sage solution.
Je donne juste mon petit testimonial. Moi, je suis en train, avant même que YouTube Red arrive en France, je viens de migrer sur Google Play Music. J'annule mon abonnement chez Apple Music parce que, clairement, c'est la solution la plus avantageuse d'avoir YouTube, Google. Et je trouve ça pas si mal que ça, Google Play Music. Ça me satisfait, ouais. J'ai été surpris. Je me disais, bon, je veux pas y retrouver tous mes petits. Et ben pour l'instant, j'y retrouve tous mes petits et je trouve presque que c'est plus clair qu'Apple Music.
Ah bah écoute, je vais peut-être y jeter un coup d'œil aussi parce que moi je suis très intéressé par YouTube Red. Donc,
ah ouais, moi je peux pas mettre 10€ pour la musique plus 10€ pour la vidéo, mais par contre YouTube Red qui m'offre pour 10€ la vidéo sur YouTube plus la musique, ça me va tout à fait.
Ouais. Sur Reddit, vous le savez, je l'ai évoqué déjà un petit peu auparavant dans l'émission, on a notre subreddit qui est de plus en plus actif, c'est reddit.com/r/rdvtech, où les gens peuvent aller soumettre des sujets et voter pour ou contre pour qu'on en parle dans l'émission. Xavier CRM nous a lié un sujet sur la détection des émotions à partir des photos, qui est une technologie là encore de deep learning de Microsoft, de machine learning. C'est assez impressionnant, hein. On lui propose une photo de quelqu'un et il détecte vraiment les émotions. Il y a une liste de, je sais plus, 7 ou 8 émotions différentes et il l'associe à un taux d'émotion pour chaque émotion. Genre, on met là une photo et il dit, ah, lui, il a 0,5% de joie, 0,2%, pardon, pas 0,2%, mais 0,2 de joie, 0,3 de, et le total c'est 1. Donc, bref, ça fait 20% de joie, 3% de peur, et 50% de, je sais pas moi, de tristesse. Et il repère, c'est assez bien fait, quoi. Effectivement, ça repère vachement bien. C'est surprenant à quelle vitesse tous ces trucs, on en parlait chez Google pour d'autres domaines de reconnaissance de photos et de vidéos, c'est impressionnant à quelle vitesse ça évolue tout ça, quoi.
Ouais, et ça, c'est même, j'ai lu un article là tout frais, ils sont même en train d'aller plus loin c'est que maintenant l'ordinateur commence à arriver à analyser, tu sais, ce qu'on appelle les micro-mouvements. Je crois que je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que ça a à voir avec
Avec
la programmation neuro-linguistique. Il y avait une série là-dessus où le mec arrivait à décrypter quand quelqu'un mentait parce que t'as un léger clignement de l'œil et tout ça.
Ah,
et
c'est là, pas Lie to Me, non?
Si, voilà, Lie to Me. Je crois que c'est la PNL, le système qui permet de faire ça. Et les ordinateurs arrivent à décrypter un sourire qui n'est pas un sourire. Ou voilà, des micro-mouvements et intéressants. Dangereux, mais intéressant.
Oui, oui. On vit une époque formidable. Elle va être encore plus formidable. Je crois que là, s'il y avait Microsoft qui regardait mon visage à l'instant, ils auraient vu 80% de terreur.
Ils auraient décrété que dans les poils de tes sourcils qui se dressaient d'une certaine façon, il y avait 80% de terreur, malgré un sourire affiché.
Un sourire fin. Et enfin, Lupus 60... Ah non, pardon, j'oublie de mentionner encore une fois notre ami Mika, toujours hashtag Patriote, qui nous a mis un lien vers un sujet sur Tesla. On avait parlé de l'histoire d'autopilote qui marchait super bien sur la dernière Tesla, enfin avec la dernière mise à jour de Tesla. Et ben en fait, ils ont un petit peu calmé les ardeurs des conducteurs parce que ils avaient dit, attention, c'est un logiciel bêta, gardez les mains sur le volant, faites pas les idiots. Et en fait, les gens ont tellement fait les idiots qu'en fait, ils se sont calmés un petit peu sur le pilotage automatique des voitures. Donc bon, voilà, c'est comique de mentionner le fait que...
Ça m'a instantanément fait penser à la fausse bonne idée quand ils avaient décidé de mettre des radars civiques sur la route. Un radar qui t'indiquait ta vitesse, mais à titre préventif, pas à titre... Donc ça te disait, voilà, vous allez à telle vitesse. Et ben instantanément, les gens se sont mis à vouloir battre des records sur le radar et avoir le meilleur score. Donc ils les ont enlevés tout de suite.
Oui, effectivement.
Voilà. La nature humaine.
Et effectivement, il y a, on y arrive enfin à cette dernière histoire de Lupus 76, toujours sur Reddit, qui nous mentionne le fait que, je ne sais pas si les Parisiens, certains Parisiens s'en souviendront, il y a une panne informatique à Orly, il y a une dizaine de jours à peu près, et en fait, on a appris que c'était dû à un logiciel qui était sous Windows, pas Windows 7, pas Windows XP, pas Windows 95, sous Windows 3.1. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ce qu'est Windows 3.1, mais c'est antédiluvien, quoi. C'est ce qu'il y avait avant Windows 95, en fait. Donc, ça a plus de 20 ans. Je pense que... Comment dire ? C'est assez facile de se moquer du truc, mais dans un aéroport, finalement, quand on a des systèmes critiques qui sont hyper importants, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre à jour un truc qui tourne sous Windows 3.1 ? Ou est-ce qu'il faut forcément développer un nouveau logiciel qui va coûter très cher ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir la transparence de Windows 8 et de je sais pas quoi ? Si ça marche avec Windows 3.1, pourquoi le changer ?
Ouais, et puis je pense que là, il faut... nous, on est des utilisateurs, on télécharge les derniers trucs et tout ça, mais l'IT d'entreprise, et je pense que certains de tes poditeurs qui travaillent là-dedans le diraient mieux que moi, mais l'IT d'entreprise n'a pas du tout les mêmes préoccupations. Il y a des préoccupations, comme tu dis, de sécurité, de pérennité des systèmes, et quand quelque chose marche, pourquoi le changer ? Nos caisses distributrices d'argent tournent parfois encore sur des trucs sous DOS. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Moi, ma banquière, l'autre jour, c'est limite si elle planquait pas son écran tellement elle avait honte. Vu les systèmes. Non, je devrais pas dire ça parce qu'ils ont changé récemment, mais d'ailleurs, ça a été une catastrophe. Pendant 3 semaines, ça marchait plus. Mais voilà, c'est dur pour une entreprise qui a des normes de sécurité comme un aéroport et tout ça. Changer un système, c'est pas comme vous qui va passer une petite soirée à installer votre nouveau truc, à péter un peu les plombs parce que ça marche pas du premier coup. Les enjeux sont très grave et les investissements sont beaucoup plus lourds.
Ouais. C'est sûr. Bon, mais c'est quand même marrant.
20 ans en informatique, en âge de chat, ça équivaut à 2 siècles, quoi.
Bon, eh ben écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode qu'on a fait quand même malgré tout. Je pense que c'était important. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir participé.
Merci à toi. Merci à toi. Et je pense que effectivement, comme toi, il est important. Je dis pas que la vie continue parce que c'est ce que je disais ce matin. La vie est changée, c'est une évidence. Mais il faut aussi, voilà, que les choses reprennent leur cours et justement montrer que nous ne capitulons pas ou nous ne changeons pas suite à leurs vaines menaces.
Ouais, il y avait un reportage. Je crois que c'était sur BuzzFeed justement, qui fait des trucs hyper clickbait, mais qui depuis quelque temps se sont mis à faire aussi beaucoup de sujets d'investigation. Mais là, en l'occurrence, c'était un peu entre les deux. Ils sont allés dans les rues parisiennes et ils ont essayé de voir en fait le lendemain, le samedi, comment les gens réagissaient. Et c'était marrant parce que il y avait vraiment cette envie de dire, eh ben oui, on va continuer à aller sur les terrasses, on va continuer à boire nos cafés et nos bières. Et ils faisaient des doigts d'honneur aux terroristes. Tu vois, j'ai trouvé cette défiance par rapport à la peur, très saine et très courageuse. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger. Je crois qu'il y a peu de danger, finalement, pour qu'ils altèrent notre mode de vie de cette manière-là. Oui. C'est pour ça que je dis, c'est sur d'autres choses qu'il faut être vigilant.
Oui.
Et c'est pour ça que je mentionnais notamment la quadrature du net, etc.
Et pour terminer sur un petit sourire, un tweet qui m'a bien fait sourire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a dit « Ils essayent de nous mettre à genoux, mais est-ce que vous avez déjà vu un Français obéir ?» J'ai trouvé que c'était pas mal.
Très bien. Bon, Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet?
Eh bien, vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube Nowtech TV ou Nowtech.tv. Ça vous amènera sur le site qui est relié à la chaîne YouTube. Et tous les matins, vous pouvez me retrouver dans ou Marion, puisqu'on présente alternativement Marion et moi-même, ou parfois les deux, une émission qui s'appelle Techscope, qui est une revue de presse de la technologie où tous les matins, on revient sur les articles les plus intéressants de la technologie et on les commente surtout en direct avec la chatroom. La chatroom étant un présentateur à part entière de cette émission. Alors, c'est pour les lève-tôt ou les couches-tard, puisque c'est à 8h du matin, et c'est en direct sur Periscope, et le replay est ensuite disponible sur la chaîne YouTube.
Oui, couche-tard, c'est vraiment couche très tard.
Hein. Ah, très très tard.
Oui.
gros joueur.
D'ailleurs, j'ai vu entre parenthèses que tu étais sur Heroes of the Storm tout à l'heure.
Oui,
te surprendre.
Alors, c'est ta faute. Mon compte Blizzard était bloqué depuis quasiment 7 mois et je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et tu m'as dit, mais Jérôme, il faut que tu débloques ton compte Blizzard. Donc, je l'ai fait en me disant, tiens, il y a un nouveau jeu qui arrive bientôt. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimais bien Heroes of the Storm. Je vais re-regarder. Et j'ai remis le doigt dedans. Et maintenant, dès que je fais une pause entre deux montages, je fais une partie de Heroes of the Storm. Mais c'est bien, c'est court, c'est relativement court.
Ouais, c'est 20 minutes, c'est vrai.
C'est exactement, et puis surtout, ça me défoule, tu peux pas savoir.
J'imagine.
J'adore jouer Lily avec ses tornades et ses soins, ça me défoule.
Très facile à jouer, ouais, Lily.
Très facile, ah oui, moi je suis pas un très très bon joueur. Ouais. Si je joue bien, comment il s'appelle? Le paladin avec le tank.
Ah
là,
oui, Uther.
Ouais, lui je le joue pas mal. D'accord. Je suis même plutôt bon.
Pas mal,
et
pas
ça
mal.
Y est, je joue maintenant, comment on appelle ça, dans les catégories de compète, là. Je m'y suis mis aujourd'hui.
Ah oui, dans les matchs classés.
Dans les matchs classés, je me suis fait engueuler. Parce que je faisais des conneries.
Moi, j'y suis pas encore. Hein. J'ai recommencé un petit peu. C'est marrant. Bon, juste pour terminer, vraiment. Oui. Pendant les événements, moi, comme je le disais, j'étais en Finlande. J'ai pas eu envie de suivre à la minute près tout ce qui se passait pendant la soirée. Du coup, j'ai lancé des jeux que j'avais sur place, Hearthstone en l'occurrence, et puis j'ai relancé Heroes of the Storm, et du coup j'y ai pris un petit peu goût, j'ai fait 2-3 parties, j'essaye de m'y mettre un petit peu plus maintenant alors que j'avais jamais accroché avant, et c'était vraiment, quelque part ça aussi c'était un peu salvateur quoi, le fait que par le jeu vidéo, on puisse, comment dire, s'échapper un tout petit peu pendant quelques minutes de cette oppression, c'était quelque chose de salvateur, quoi. Et je pense qu'on, je suis vraiment heureux qu'on ait dépassé cette idée que les jeux vidéo soient néfastes dans, d'une manière ou d'une autre, et que ça soit simplement comme si on a envie de regarder la télé ou de se perdre dans un livre ou quelque chose. Et ben, un jeu vidéo, moi, pendant quelques minutes, j'étais dans une pyramide en train de dérober des artefacts millénaires et essayer de m'échapper en courant, en fuyant, en évitant les pièges qui étaient sur mon chemin avec un jeu de cartes, c'est complètement bizarre, ou alors de me battre dans ce Nexus dans Heroes of the Storm. Et voilà. Et après, ça ne veut pas dire qu'on
ça fait du bien. Après, ouais.
Et après, on revient à la réalité, je veux dire.
Voilà. Mais on a besoin de pause. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi beaucoup les réseaux sociaux pendant le week-end parce que c'est ce dont j'avais besoin. Je crois que personne ne peut juger qui que ce soit. On a tous des réactions différentes. Moi, j'avais besoin vraiment de m'abreuver, d'avoir un maximum d'infos, etc. Par contre, je faisais très attention, et ça, je l'ai dit ce matin, je ne regardais pas Facebook, parce que ce que je reproche à Facebook, c'est que je n'ai pas le choix de voir ou pas les images. Et c'est en ça que je préfère Twitter, c'est que moi, mon flux Twitter, je n'ai pas affiché les images par défaut. Il y a des images que je n'ai pas envie de voir. Donc, il y a des images sur lesquelles je n'ai pas cliqué. Il y a des choses que j'ai pas envie de voir. C'est mon expérience, d'ailleurs, des événements de janvier. J'ai vu des choses en janvier qui me traumatisent encore et qui ne m'ont pas servi. Donc là, j'ai évité de regarder certaines choses. J'ai lutté contre mon instinct voyeur qu'on a tous. Mais aujourd'hui, je dois avouer que j'avais aussi besoin, l'émission de ce matin était difficile à faire, j'avais besoin aussi d'un tout petit peu d'évasion, et le jeu vidéo, c'est vrai que c'est quand même un moyen formidable de faire ça pendant un court laps de temps, quoi.
Bon, écoutez, si vous avez des commentaires à nous faire ou à me faire, vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis NotPatrick, vous le savez, je suis aussi sur Facebook, également NotPatrick, vous pouvez me retrouver là-bas aussi. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr, vous retrouverez également le rendez-vous jeu Positron et Upload sur frenchspin.fr aussi. Comme je le disais, j'étais dans This Week in Tech ce dimanche. Donc, si vous voulez une longue perspective sur tous ces sujets, j'en ai parlé longuement avec Léo Laporte, Jeff Jarvis et d'autres dans This Week in Tech. Et puis voilà, je pense qu'on aura d'autres occasions d'en débattre à l'avenir. Je pense qu'on va clôturer cet épisode ici pour aujourd'hui. Merci encore une fois à tous ceux qui soutiennent cette émission avec Patreon ou d'une autre manière, si vous voulez dire à des amis d'écouter l'émission, c'est aussi un moyen de nous soutenir. Si vous voulez aller mettre des avis et des reviews, des 5 étoiles ou autant d'étoiles que vous voulez sur iTunes ou sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez, c'est aussi un moyen de nous soutenir. Quoi qu'il arrive, je vous remercie tous du fond du cœur. Je souhaite qu'on reste unis et toujours cohérent et réfléchi dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans cette émission. J'espère qu'on y arrive plus qu'on n'échoue. Et quoi qu'il en soit, on est tous ensemble dans cette aventure. Et je suis extrêmement fier de faire partie de cette communauté que nous formons tous. Et j'espère que ça continuera pendant encore très longtemps. Je vous remercie tous et on se dit à dans 2 semaines. Pardon, Jérôme.
Non, j'étais complètement d'accord avec toi et je vous salue également tous et à très bientôt.
À très bientôt. Ciao à tous.
Salut tout le monde.